Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. De nos jours, la place de la science dans le débat public semble plus questionnée que jamais. Dans plusieurs démocraties, et notamment aux États-Unis, on observe un affaiblissement préoccupant du lien entre les connaissances scientifiques produites par la recherche et les décisions prises par les responsables publics dans un contexte global de défiance à l'égard des institutions. Sur des sujets aussi déterminants que la santé, l'environnement ou l'éducation, l'évidence scientifique se trouve ainsi parfois mise en concurrence avec des logiques idéologiques ou des intérêts de court terme. En France, ce lien entre recherche et action publique est particulièrement intéressant à interroger dans le domaine de la santé publique. Alors que le déficit de la sécurité sociale a atteint près de 22 milliards d'euros en 2025, notre système de santé fait face depuis longtemps à des défis majeurs de soutenabilité financière. Dans le même temps, de nombreux travaux de recherche ont montré que les inégalités de santé restent importantes. En effet, selon le niveau socio-économique, le lieu de résidence ou les trajectoires de vie des individus, l'accès aux soins et l'espérance de vie restent très inégalement répartis dans la population. Dans ce contexte, on peut donc s'interroger comment les pouvoirs publics peuvent-ils mieux s'appuyer sur les résultats de la recherche pour éclairer leurs décisions ? En effet, si la science ne peut se substituer à la décision politique, elle est un outil essentiel pour comprendre les réalités sociales et aussi anticiper et évaluer l'efficacité des politiques publiques. C'est précisément à cette articulation entre savoir scientifique et action publique que nous consacrons ce podcast avec nos quatre invités. Denis Reynaud, économiste et directeur de l'IRDES, Pierre Jardier-Forest, président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec et président du Conseil scientifique de l'IRDES, ainsi que deux autres membres du Conseil scientifique de l'IRDES, Stéphanie Dupéis, inspectrice générale à l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et Mathieu Cousineau, directeur gouvernance mutualiste du groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Pour cette première question, je me tourne vers vous, Pierre Jardier-Forest, bonjour. Vous avez en Amérique du Nord à la fois une expérience en tant que chercheur et responsable d'agence de santé publique. Selon vous, comment la recherche influence-t-elle la décision publique ?
Alors bonjour, d'abord pour commencer, oui, c'est une question intéressante et finalement assez difficile. La première façon d'aborder la question, c'est probablement de penser au choix qu'on doit faire à plusieurs reprises au cours de sa carrière entre ce que les Américains appellent une stratégie du murmure ou du porte-voix. Alors, le murmure, c'est parce qu'on fait référence à ce film « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ». C'est l'idée qu'une première façon d'influencer les politiques, c'est de murmurer à l'oreille du ministre. Et c'est de murmurer à l'oreille des décideurs, c'est-à-dire de se mettre dans une position de conseil par nature discrète, qui interdit presque toute forme d'intervention publique. Ou alors, au contraire, vous essayez d'influencer la décision en utilisant un porte-voix, c'est-à-dire en écrivant des lettres ou des articles dans les journaux, en faisant des interventions publiques de façon à faire bouger l'opinion. Et le choix, évidemment, il tient aussi un peu à votre personnalité. Il y a des gens qui sont plus confortables dans une position de visiteur du soir que dans une position de tribun. C'est évident. Mais il y a aussi la question du problème qui est en cause, du moment, du contexte qui peut vous obliger à choisir entre une stratégie et l'autre. Comme je vous l'ai dit, la personnalité joue beaucoup. J'ai toujours été plus confortable, moi, dans ma carrière, dans une position de murmure que dans une position de porte-voix. Mais ça ne m'a pas empêché de faire l'un ou de faire l'autre. J'ai appris aussi dans cette expérience-là que lorsque vous parler à l'oreille du ministre, pour ainsi dire, quand vous essayez de le convaincre d'agir d'une façon ou de l'autre, que vous disposez des informations, des données, des approches qui peuvent donner des résultats qui intéressent cette personne. La dernière chose qu'ils veulent, c'est vous voir écrire une lettre ouverte dans le journal le lendemain matin dans lequel vous prodiguez les mêmes conseils. Si vous faites ça, votre carrière est terminée. Enfin, votre carrière de conseil, votre carrière de chercheur, c'est toujours possible, mais votre carrière de conseil, en tout cas avec ce gouvernement ou avec ce ministre, est immédiatement terminée. Donc, il faut penser à ces choses-là avant de commencer. L'autre problème que ça pose socialement, c'est qu'il faut avoir cette distance courte, ces circuits courts avec le pouvoir. C'est rare en début de carrière, c'est des choses qui, généralement, on développe au fur et à mesure qu'on progresse dans la carrière, qu'on construit un réseau, que les gens viennent vers vous parce qu'ils pensent que vous disposez des solutions aux problèmes qui se posent. Mais c'est des choses qui sont plus difficiles probablement à faire au départ.
Oui, donc avec votre expérience, vous devez aujourd'hui avoir une idée de la façon dont pensent les décideurs.
Oui, vous avez raison. Bien entendu, au-delà de leur position idéologique ou politique, hein, de façon générale, lorsque vous travaillez avec des décideurs, il y a deux façons de voir le problème. La première, qui est peut-être la plus élémentaire, c'est de comprendre qu'ils s'attendent en général à la réponse à une question immédiate. Et donc, l'analogie, c'est le ministre vous consulte parce que quelqu'un est en train de se noyer. Si vous arrivez et vous dites, vous savez, j'ai une solution, on pourrait construire un pont, il ne vous écoutera pas très longtemps. La première chose qu'il ou elle veut savoir, c'est comment vous allez tirer cette personne de l'eau, et puis ensuite, comment vous allez faire en sorte pour que les gens, au moins pour un certain temps, ne se noient plus. Et puis, si vous arrivez à apporter ces solutions, il vous écoutera après, lorsque vous viendrez, vous direz, vous savez, à long terme, ça serait quand même plus intéressant, plus intelligent, plus rentable de construire un pont. Alors ça, c'est la première partie de la stratégie. Il faut comprendre que la plupart du temps, les décideurs sont dans l'urgence, ils sont dans l'immédiat, ils ont une fenêtre qui est rarement, dans mon expérience à moi, de travail avec des politiques. 3 jours, c'est en moyenne leur capacité d'attention, hein, c'est-à-dire les journaux de la veille, les journaux du jour, les journaux du lendemain. Et il faut que vous soyez capable d'apporter des solutions immédiates à leurs questions pour qu'ils portent attention ensuite aux choses que vous allez leur proposer. L'autre façon de voir le problème, alors celle-là, elle a été suggérée il y a très longtemps par Raymond Aron dans sa préface au livre de Max Weber sur le savant et le politique. Et j'ai toujours trouvé que cette intuition était vraiment très, très juste. L'idée, c'est que la première chose qu'ils veulent comprendre, c'est quel est le risque qui est attaché au fait d'agir ou de ne pas agir. Et ça a l'air assez curieux, cette idée, mais en fait, lorsque vous vous placez dans la peau ou les souliers d'un décideur, la question pour eux, c'est toujours de se demander, et si je ne fais rien, qu'est-ce qui va se produire ? Si je fais ça, est-ce que ça va donner des résultats ? Quelles en seront les conséquences ? Toujours dans cette pensée de rapport immédiat des actions qu'ils portent ou qu'ils ne portent pas. Donc, vous devez avoir avec vous une bonne compréhension des risques qui sont associés au problème. Et l'autre chose, c'est une théorie de la causalité qui leur dit, mais vous savez, si vous posez le geste que je vous recommande, voilà le résultat auquel vous pouvez vous attendre. Et il faut être aussi porteur de ça, d'une théorie de la causalité. C'était ça l'intuition de Aron, c'est que toute interaction avec le politique, pour un savant dans les termes de l'époque, c'est-à-dire pour un chercheur dans les termes d'aujourd'hui, doit comporter une bonne analyse du risque et une bonne analyse, disons, une théorie de la causalité pour aller vite. Et de cette manière-là, mon expérience, encore une fois, c'est qu'on est capable d'engager une conversation avec le décideur, avec les politiques sur cette base-là. Et c'est dans cette conversation que va se construire ensuite la relation de confiance, le fait qu'on fera appel à vous de plus en plus souvent pour arriver à des résolutions de problèmes. Et votre but, ce n'est pas un but commercial, vous n'êtes pas un consultant ou une consultante. Ce que vous essayez de faire, c'est d'apporter les éclairages de la recherche, d'apporter, disons, pour parler là très généralement, l'éclairage de la science dans la prise de décision, ce qui est quand même, pour la plupart d'entre nous qui faisons de la recherche appliquée, la raison d'être de nos activités.
Et justement, comment mesurez-vous l'impact de ces activités de recherche ?
Alors, pas d'une façon nécessairement directe ou naïve, c'est-à-dire le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, encore une fois, c'est d'exercer une influence qui est celle de la science, qui est celle de la recherche sur les décisions publiques, dans le but le plus possible que ces décisions soient effectives, de qualité, et ainsi de suite. Il me semble qu'une des façons importantes de mesurer l'influence, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point on est capable de cadrer les décisions, de contribuer donc à dessiner le cadre dans lequel ces décisions sont prises. Un jour, je déjeunais avec le patron d'un think tank assez important au Canada et il me disait avec beaucoup de fierté, tu te rends compte, Pierre Gerlier, hier soir, il y avait eu un débat à la télévision entre les chefs des grands partis politiques canadiens. Eh bien, toutes les données qu'ils ont utilisées pendant le débat venaient de notre institut. C'est un énorme succès, puisque ça veut dire que nous avons été capables de définir le périmètre du débat politique, le périmètre de la conversation. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire, quand vous arrivez à faire en sorte, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'IRDES, sur beaucoup d'enjeux, quand vous arrivez à en faire en sorte que les politiques, les décideurs, débattent d'une question en utilisant des données, des paramètres, le vocabulaire que vous avez développé et imposé dans votre recherche, je pense que vous pouvez vraiment crier victoire. C'est ça la véritable influence dans le débat politique. Parce qu'on ne peut pas se substituer à eux. L'objectif n'est pas de prendre les décisions à leur place. L'objectif, c'est qu'ils pensent à l'intérieur d'un périmètre dans lequel vous avez contrôlé la qualité de l'information qui est utilisée, vous avez contrôlé la nature des raisonnements. On a parlé plus tôt dans nos échanges de théorie causale, donc ils ont une idée des actions qui peuvent effectivement donner des résultats probants. Et moi, je pense que ça, c'est une vraie mesure de l'influence. Vous ne cherchez pas nécessairement la reconnaissance, vous ne cherchez pas nécessairement encore une fois, de participer, d'être associé directement, ce qui ne serait pas sain, au fond, puisque vous voulez garder votre indépendance, donc d'être associé aux décisions politiques, mais d'avoir contribué à leur cadrage. Je pense que ça, c'est la forme supérieure d'influence pour une organisation comme l'IRDES ou pour une autre organisation qui fait de la recherche appliquée, comme on en fait ici.
Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Denis Reynaud. Bonjour, vous êtes directeur de l'IRDES. Pouvez-vous nous dire comment l'IRDES se positionne vis-à-vis de la décision publique ? Pierre Jarlier-Forest évoquait à l'instant deux stratégies, celle du murmure et du porte-voix. Quelle approche privilégie un institut de recherche tel que l'IRDES ?
Bonjour. Alors, il y a trois dimensions vraiment importantes pour essayer d'avoir de l'impact sur la décision publique. Il y a premièrement l'anticipation, deuxièmement la crédibilité scientifique et troisièmement la visibilité. Alors en ce qui concerne l'anticipation, ça commence dès la construction du programme de recherche. Il ne faut pas attendre les commandes des membres de l'IRDES ou de l'administration sur tel ou tel sujet de recherche ou à évaluer. Il y a un travail à faire d'anticipation. Et d'ailleurs, on peut travailler avec le conseil scientifique à identifier les bons sujets sur lesquels l'IRDES doit se positionner, ce qui permet, c'est jamais parfait, mais d'être prêt au bon moment, même si ce n'est pas si facile que ça en réalité. Donc, en conséquence, pour anticiper, il faut avoir une capacité d'autosaisine. Et ça, c'est ce qu'on arrive à construire avec les membres de l'IRDES et avec les membres du conseil scientifique. Et pour avoir cette capacité d'autosaisine, il faut mentionner que c'est important d'avoir des financements recherche de type IRESP ou Agence nationale de la recherche qui permettent de construire des programmes de recherche ou des projets de recherche qui ne sont pas directement demandés par les institutions. Bien que une grande partie aussi des travaux de l'IRDES conduisent à répondre à des demandes qui sont adressées par les membres de l'IRDES ou par d'autres membres d'administration, comme par exemple le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Le deuxième point, c'est la crédibilité scientifique. Voilà, pour avoir de l'influence, il faut que nos travaux soient vraiment crédibles. Et donc pour ça, il faut s'appuyer sur la validation par les pairs, c'est-à-dire par les publications dans les revues scientifiques à comité de lecture, en essayant d'être assez ambitieux sur le niveau des publications que l'on vise. Et cette rigueur scientifique, ça permet aussi de se distinguer d'autres porteurs de messages qui peuvent être plus associatifs ou des think tanks ou des groupes de pression. Voilà, les messages qui sont portés par l'IRDES, ce sont des messages avant tout scientifiques. Ça, c'est très important. Enfin, le troisième point, évidemment, c'est la visibilité. Donc, cette visibilité, elle est atteinte grâce aux publications de l'IRDES, puisque l'IRDES est aussi son propre éditeur. On ne publie pas uniquement dans les revues scientifiques extérieures, mais on a aussi notre propre collection qui permet de rendre visibles nos travaux. Et en général, on double nos publications de communiqués de presse qui permettent d'atteindre le grand public par le relais de la presse. On est aussi très souvent auditionné par les corps d'inspection, comme l'inspection générale des affaires sociales ou la Cour des comptes. On a aussi des auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et finalement, à la suite de ces auditions, eh bien, ça permet d'alimenter ces rapports publics qui alimentent derrière les choix politiques qui peuvent être faits. Et évidemment, on est aussi, quand on publie, souvent sollicité à la suite de nos communiqués de presse, on est souvent sollicité par la presse. Et donc, alors soit la presse reprend directement nos travaux, soit on est sollicité pour des interviews. Et ça, c'est important aussi voilà, d'être présent à ce niveau-là. Donc, pour reprendre un peu la typologie de Pierre Gerlier entre murmure et porte-voix, je dirais qu'on est vraiment plus dans une stratégie de porte-voix, en se disant que ces publications, il faut assurer leur visibilité et grâce à des relais comme les rapports publics ou la presse, eh bien, on arrive à faire passer des idées dans l'opinion. Et finalement, on sait que les décisions politiques peuvent évidemment être sensibles à des recommandations qui peuvent être faites par des experts, mais sont aussi sensibles à l'opinion générale, hein, ou au débat public. Et finalement, par le biais de nos publications IRDES, on arrive à être présent dans le débat public et donc, dans un second temps, à avoir une influence sur la décision publique. Et pour finir, je prendrai un exemple. C'est l'enquête qu'on a réalisée il y a quelques années, l'enquête Premier Pas, donc sur l'accès aux soins et l'état de santé des sans-papiers. Donc, c'est un travail qui a été réalisé grâce à un financement de l'Agence nationale de la recherche. On était vraiment dans l'autosaisine avec un processus rigoureux puisqu'il a été sélectionné par l'Agence nationale de la recherche parmi tout un ensemble de projets construits par d'autres chercheurs. Donc, il fallait atteindre une certaine qualité scientifique. Et ces travaux sur la santé et l'accès aux soins des sans-papiers ont donné lieu à des publications scientifiques, mais aussi à des publications de l'IRDES, et qui ont été largement reprises par la presse. Et c'est via ces reprises presse, et c'est aussi via des relais d'opinion, notamment d'associations, qui finalement, à travers des tribunes dans la presse, en reprenant nos résultats, ont permis d'avoir une influence sur la décision publique. Et on peut dire que si l'aide médicale de l'État a été globalement préservée, malgré un contexte politique plutôt négatif, c'était en partie grâce aux travaux réalisés par l'IRDES.
Alors pour compléter ces propos, je m'adresse maintenant à Stéphanie Dupéy. Stéphanie, bonjour. Vous êtes inspectrice générale à l'IGAS. Pouvez-vous nous dire comment l'IGAS se saisit des travaux de recherche existants, notamment dans le domaine de la santé ?
Bonjour et merci pour l'invitation. Peut-être faut-il d'abord rappeler que ce qui caractérise vraiment l'Inspection générale des affaires sociales, son ADN, c'est une culture de la preuve. Il est donc naturel que les travaux de l'IGAS s'appuient sur les travaux de la recherche, puisque pour nous, la recherche, ce n'est pas un ornement, c'est un véritable réflexe professionnel. D'ailleurs, on mène un vrai travail d'acculturation à la recherche, en invitant des chercheurs à présenter leurs travaux, en collaborant avec des équipes, et on a même récemment créé notre prix de thèse qui nous permet d'identifier des travaux utiles à nos problématiques. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment de culture scientifique au sein de la maison, on va proposer des formations pour apprendre à utiliser les travaux des chercheurs dans les missions.
Et justement, comment ça se traduit dans les missions ?
Alors d'abord, on commence souvent par une revue littérature. Ça permet de situer l'état des connaissances et parfois même de bousculer des idées reçues. Je vais vous donner un exemple avec le rapport sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui vient d'être mis en ligne il y a quelques semaines. On croit généralement, et c'est assez naturel, que plus il y a d'accompagnants, mieux c'est pour l'enfant. Eh bien non, les travaux de la recherche montrent que multiplier les accompagnants ne garantit pas l'autonomie de l'enfant. Sans la recherche, on n'aurait pas pu prendre ce recul par rapport à certaines idées reçues qui paraissent pourtant assez logiques et aussi prendre le recul par rapport à certaines attentes sociales. Ensuite, au cours de la mission, on va auditionner des chercheurs en bilatéral ou lors de séminaires. Ça a été le cas par exemple dans la mission de 2023 sur la qualité de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, où on a réuni plusieurs équipes pour confronter leurs approches. Là, le but, c'était de ne pas s'enfermer dans une seule lecture. Enfin, la recherche nous apporte aussi une méthodologie. Il arrive dans certaines missions que l'on co-construise avec des équipes de recherche, des questionnaires, des grilles d'observation. et ce travail en commun va vraiment changer la qualité du diagnostic et la solidité de nos recommandations. En fin de compte, cette culture scientifique va nous permettre de mieux conseiller le décideur. Et conseiller le décideur, c'est notre mission principale à l'inspection générale.
Alors, je me tourne maintenant vers vous, Mathieu Cousineau. Bonjour. Vous êtes directeur gouvernance mutualiste du groupe Vive. Comment voyez-vous le lien entre recherche et action publique ?
Bonjour et merci pour l'invitation. En tant qu'utilisateur de données et de travaux de recherche, pour moi, l'important, c'est d'avoir une question de recherche pertinente qui vient éclairer un pan du fonctionnement du système et des enjeux sociétaux. C'est ce qui fera, à mon sens, que les résultats obtenus resteront intéressants pour le décideur. On le sait, le temps politique n'est pas celui de la recherche, le temps médiatique n'est pas celui de l'investissement dans les politiques de santé, et encore moins celui de l'évaluation de ces politiques, qui, lui, est nécessairement inscrit dans le temps long. Pour autant, il y a un pont cohérent à construire dans le projet de recherche ou l'évaluation de ces politiques, celui de la recherche de la preuve, de faire la démonstration que le but politique annoncé de l'action publique a été atteint ou non, et d'en comprendre les raisons. La recherche peut être le phare qui éclaire plus loin que l'action publique, la gardienne de la tempérance et de l'objectivité, y compris pour dire qu'on ne sait pas prouver que l'action porte ou non ses fruits. La recherche a aussi cette particularité de plus en plus rare d'être ouverte à la discussion, de permettre l'échange dans un cadre rationnel et ainsi d'apporter des arguments solides et fiables qui en font un élément plus durable dans le temps. La recherche, elle peut s'inscrire dans le débat public ou à minima dans le débat institutionnel et convaincre les parties prenantes de la réalité des enjeux et des mécanismes qu'elle aura su dévoiler par ses travaux. La force de la recherche, c'est de pouvoir rappeler la question politique initiale. A-t-on voulu réduire les inégalités de santé ? A-t-on souhaité améliorer l'accès aux soins ? Au regard de la solution envisagée, quelles expériences similaires ou alternatives ont déjà été testées, par exemple ? Sur une question, elle sait exposer l'état de l'art, ce qui est déjà connu et ce qui reste à prouver, et donc ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et s'attacher au pourquoi. Elle sait aussi exposer les constats, quantifier, qualifier des besoins, autant d'ingrédients pour élaborer une proposition d'action.
Alors, vous venez de le dire, la temporalité entre recherche et agenda politique est souvent différente. Pouvez-vous développer ?
La temporalité différente peut être un atout avec des travaux de recherche qui restent pertinents longtemps. Néanmoins, les sujets sanitaires, économiques, sociaux sont des mécanismes profonds avec le plus souvent des tendances de moyen-long terme que la recherche connaît bien. L'enjeu, à mon sens, c'est de rester à l'écoute des cycles politiques qui font remonter régulièrement à la surface ces sujets et d'être prêt à faire remonter les travaux de recherche en résonance avec ceux-ci.
Alors, on vient de voir que la recherche peut influencer les décisions, mais souvent de façon indirecte, différée ou dépendante du contexte. Comment renforcer cet impact, Mathieu Cousineau ?
Alors, de même que la temporalité médiatique est différente de celle de la recherche, les codes de communication le sont tout autant entre médias et publications scientifiques. Aussi, réfléchir à recycler des productions en lien avec l'actualité, c'est répondre à la question suivante. Que puis-je remettre en avant aujourd'hui ? Quelle analyse, déjà publiée, peut éclairer un débat actuel ? À mon sens, la première étape serait donc d'identifier les opportunités, à la fois dans le calendrier politique ou institutionnel, et des contenus dans le stock des travaux passés. C'est aussi clarifier l'intention de la communication, identifier sur quel sujet apporter un éclairage au débat public, en cours ou à venir. Puis, porter un message simple expliquant en quoi les travaux peuvent servir à la problématique, même si ceux-ci ne sont pas très récents. Savoir communiquer efficacement, en fonction du public visé et au bon moment, sont des éléments d'une communication avec impact. En effet, un format court, synthétique, repositionné dans le bon contexte, adapté à la problématique de son public, peut relancer efficacement l'intérêt autour d'une publication passée. Dit autrement, en adoptant les codes de la communication pour se mettre à la portée de son auditoire, sans renier sa rigueur scientifique.
Et justement, que pourrait-on faire plus précisément pour mieux communiquer ?
Alors, en synthèse, d'abord, peut-être construire un champ des opportunités qui s'inscrirait dans un calendrier prévisionnel, que l'on calerait avec l'agenda politique, par exemple, un PLFSS, une journée mondiale de la santé, une journée mondiale de la justice sociale, par exemple, et clarifier l'intention que l'on veut y mettre, l'angle avec lequel on souhaite communiquer. Et puis, ce serait adopter les codes du journalisme et de la communication pour accrocher son auditoire. Ça permet d'avoir de l'impact, d'être au rendez-vous au bon moment, évidemment d'anticiper pour permettre la préparation des éléments que l'on souhaite mettre en avant. Enfin, c'est peut-être aussi s'associer avec d'autres pour augmenter le rayonnement du message. Évidemment, tous les sujets ne s'y prêtent pas et donc il faudra sans doute prioriser.
Alors sur cette question de l'impact de la recherche sur les pouvoirs publics, Stéphanie Dupéy, quel est votre point de vue ?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre que le chercheur et le décideur n'ont pas les mêmes intérêts. Et tout l'enjeu va être de les rapprocher. Le chercheur cherche à comprendre, à mesurer, à expliquer, et le décideur, quant à lui, va agir, trancher, maintenant, avec des contraintes juridiques, budgétaires et politiques.
Dans ce contexte, comment favoriser cet impact de la recherche ?
Alors, tout d'abord, l'IGAS peut rapprocher les chercheurs de l'action publique, puisque à l'Inspection générale des affaires sociales, on peut les aider à se connecter aux enjeux concrets parce qu'on a l'expertise de ces enjeux. Et l'inverse est vrai aussi. On peut aider les chercheurs à mettre à l'agenda des politiques des sujets qui méritent d'être travaillés parce qu'ils sont les enjeux de demain et que les politiques n'ont pas forcément encore identifiés. C'est d'ailleurs le sens de nos autosaisines qui représentent à peu près 20% de nos missions, alors que le reste des missions, ce sont plutôt des commandes de nos ministres. La recherche, dans ce cas-là, ne sert pas seulement à répondre à une question politique, mais plutôt à faire émerger des questions que personne ne posait encore. Ensuite, on peut aussi aider à rendre la recherche plus accessible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un long papier avec des tas d'équations dedans, on va essayer de transformer ce papier, ces résultats, en recommandations opérationnelles, sans les trahir, mais en les rendant beaucoup plus lisibles et utilisables. C'est notre rôle de passeur et c'est un vrai savoir-faire. Je vais vous donner un exemple concret que Denis a déjà un petit peu évoqué. C'est sur l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet de financer les soins des étrangers en situation irrégulière. Et l'IGAS a contribué à la mission qui a été confiée à Claude Évin et à Patrick Stefanini. Et dans ce cadre-là, on a mis en lumière des travaux de recherche, notamment des travaux de l'IRDES, qui montrait que ce dispositif était efficace et peu coûteux au regard de ses objectifs. Et cette mise en visibilité des travaux de recherche a pesé dans le débat et a contribué à préserver l'AME. Donc finalement, recherche-inspection, même combat, fournir aux décideurs des diagnostics et des recommandations précis, chiffrés et fiables.
Pierre Gerlier-Forest, selon vous, comment renforcer ce lien entre recherche et décision publique ? Comment concilier l'expertise et la recherche ?
Un des avantages importants de la recherche qui prend place en contexte universitaire ou dans des instituts comme l'IRDES, c'est le fait qu'on peut convier plusieurs disciplines à la résolution du problème auquel on s'attaque. C'est une très, très grande différence. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je suis invité à participer à la retraite stratégique d'un très grand cabinet de consultants, peut-être le plus grand cabinet de consultants à l'heure actuelle dans le monde. Là, vous avez tous les partenaires de la firme qui se réunissent dans un hôtel de luxe en Suisse et qui, pendant 4 ou 5 jours, décident de la stratégie du cabinet en question pour les années qui viennent. Et je me suis rendu compte, après disons une demi-journée, que tous ces partenaires ont une caractéristique, ce sont tous des ingénieurs. Et un des problèmes auxquels ils font face, c'est justement le manque de perspectives disciplinaires, spécialisées, d'expertise. Et c'est pour ça qu'ils invitent des gens comme moi, pas parce que je participe de façon habituelle à leurs travaux, à leur vie quotidienne. Et ça a renforcé chez moi cette idée que dans le milieu où je travaillais à l'époque dans une grande université de recherche, on a cet avantage, justement, de pouvoir travailler avec des collègues qui apportent des points de vue différents, des points de vue spécialisés, de l'expertise qui n'est pas nécessairement accessible à des gens comme ça. J'ai eu la même expérience à peu près vers la même époque en visitant le campus de Google aux États-Unis. La même chose, vous êtes entouré d'ingénieurs, des gens charmant, brillant, éclairé, mais qui ne dispose pas de ces connaissances fines dont vous avez besoin pour la résolution de problèmes. Or, au contraire, nous, on travaille dans des contextes où on a accès de façon importante à des gens qui sont capables d'apporter la pierre qui est nécessaire pour la construction du raisonnement. Parfois, c'est une expertise de niche, hein, extrêmement étroite, mais profonde, mais solide, mais sérieuse. Et elle est indispensable à la compréhension des problèmes sur lesquels on travaille. Pourquoi ? Parce que les problèmes sur lesquels on travaille sont des problèmes complexes. Et ces problèmes ont donc, par définition, besoin aussi d'une analyse d'une expertise qui est multiple, qui est, je préfère maintenant utiliser le terme transdisciplinaire parce que ça me paraît mieux représenter le travail qu'on essaye de faire ensemble. Donc, de traduire dans la langue de l'autre, dans la façon de poser les questions, les méthodes, les perspectives qui viennent de ces différents éclairages. Et ça, ça permet d'aborder les problèmes d'une façon qui est à la fois originale, mais aussi beaucoup plus efficace à terme. Et encore une fois, ce dont je parle maintenant, c'est un point de vue qui est reconnu par de plus en plus de ces grandes firmes qui, elles, ont accès à ce que j'ai appelé plutôt aujourd'hui la stratégie du murmure. Alors, eux, ils sont payés pour murmurer à l'oreille des ministres, ils sont payés très largement pour murmurer à l'oreille des ministres. C'est ce qui leur permet de tenir leur retraite dans des hôtels de luxe en Suisse. Mais ils ont besoin de cet apport pour pouvoir résoudre les problèmes.
Cette approche pluridisciplinaire dont vous parlez, que permet-elle encore?
Alors, un des avantages, c'est de permettre, encore une fois, de convoquer pour la résolution de problèmes non seulement des expertises, mais aussi des méthodologies, des façons de définir, de voir les problèmes. Je vais vous donner un exemple concret. En Amérique, en ce moment, il y a une énorme crise de ce qu'on appelle au Québec l'itinérance, c'est-à-dire la multiplication des gens qui vivent sans domicile fixe. Et c'est une crise importante. Ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui ont voyagé aux États-Unis, au Canada, l'auront vu, les villes partout, des campements, des gens qui sont dans des situations de précarité très, très avancées. Lorsqu'on nous sollicite pour... les politiques, encore une fois, nous sollicitent pour trouver des solutions pour ces problèmes. Alors, c'est évident qu'un problème comme celui-là, enfin, ça me paraît évident, va demander des perspectives qui viennent de disciplines assez différentes. J'ai besoin d'économistes du travail pour comprendre comment la détérioration des conditions d'emploi, la précarité des emplois joue sur le fait que les gens sont plus capables de payer leur loyer, de trouver des logements. J'ai besoin de spécialistes de santé mentale pour être capable de comprendre les problèmes qui sont liés aux situations de crise, au décrochage du système de santé. J'ai besoin de gens qui sont des spécialistes des addictions, de la consommation d'alcool ou de drogue et qui sont capables de voir comment ça aussi, ça c'est l'intersection de ces mondes-là qui produit la multiplication avec, en plus, comme vous le savez, puisque c'est le cas en Europe aussi, des phénomènes de migrants qui sont mis en marge du système et des systèmes de protection sociale. Et c'est clair que vous avez donc besoin de spécialistes appartenant à plusieurs mondes pour être capable d'apporter une solution qui fait sens. Pourquoi cette rupture du lien social? Pourquoi? Quels sont ses effets? Comment intervenir? Comment rétablir au moins en partie la situation? Et puis aussi qu'ils sont capables de voir ces problèmes-là avec leur temporalité qui sont pas exactement identiques. Il y a des choses qui vont obéir à des flux, à des interventions relativement courtes qui vont peut-être produire les effets, mais si vous voulez apporter une solution durable à ces problèmes, vous êtes obligé aussi d'admettre que tous ces problèmes ne se sont pas développés de la même façon et ne pourront pas être résolus avec des interventions qui se situent de la même façon en termes de temps, d'intervention, de niveau d'intervention aussi dans la structure de l'État ou de la société. Et donc, la pluridisciplinarité, c'est aussi ça son avantage. C'est de permettre à des gens qui ne vivent pas au fond dans le même espace-temps de collaborer, de cohabiter pendant quelque temps autour d'un problème et d'apporter des solutions qui, elles, ont des chances, au contraire, de produire des résultats durables.
Denis, pour terminer cet échange, quelles sont selon vous les stratégies que l'IRDES et les chercheurs de l'IRDES doivent développer pour renforcer l'impact de vos travaux auprès des décideurs?
Alors, je crois que désormais, il faut considérer que ça fait partie intégrante du travail de chercheur de savoir communiquer sur ses résultats, les disséminer, les synthétiser, les vulgariser sous divers supports ou en utilisant divers formats. Donc, on essaye à l'IRDES de développer les podcasts, mais aussi on peut participer à des billets de blog, à des policy briefs, contribuer à des productions de think tank hein, où nos travaux peuvent être repris dans des tribunes de presse. Les chercheurs de l'IRDES peuvent participer à ça à partir du moment où on garde la rigueur scientifique exigée du chercheur et que ne s'exprime pas sur des opinions personnelles, mais sur des faits établis scientifiquement grâce à nos travaux ou à ce qu'on connaît de la littérature scientifique. En parallèle, du coup, les chercheurs de l'IRDES se forment au media training, puisque ça nécessite des compétences. Donc, il faut, pour occuper plus l'espace médiatique, ça nécessite vraiment de se former. Et je prendrai un exemple de thématique sur lesquelles on a été très visible, sur laquelle on est régulièrement sollicité. C'est la question de la répartition ou de l'inégale répartition de l'offre de soins sur le territoire, et notamment la question très importante dans le débat politique des déserts médicaux, où nous sommes très régulièrement interrogés par les médias, avec des interviews récurrentes dans la presse. Mais on est aussi interrogé par les politiques. Et par exemple, le député Garot, qui a une proposition de loi pour réguler l'installation des médecins sur le territoire, nous a auditionnés à de multiples reprises, puisqu'il a déposé sa proposition de loi plusieurs fois. Donc on a eu plusieurs auditions. Et c'est vrai qu'on a pu observer que dans la manière dont est présenter la proposition de loi, je ne parle pas du cœur de la proposition de loi qui, elle, n'a pas beaucoup changé, mais dans la manière dont la proposition de loi est amenée, bien, on voit que finalement, tous les arguments qu'on a pu développer au cours de nos différentes auditions s'y retrouvent. Et disons que ça, c'est une manière quand même de voir concrètement comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur le débat public.
Eh bien, merci à tous les quatre pour cette discussion passionnante. À très bientôt. Podcast de l'IRDES numéro 8, enregistré en juin 2026, propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.